Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Hélène Legardeur. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous serons aussi, lors de cette émission, en compagnie de Françoise Michalon par téléphone. Françoise Michalon, bonjour.
Bonjour.
Toutes les deux, vous êtes ici pour nous parler du prochain événement des artisans du monde de Valence qui organise donc quelques journées de vente équitable à Die, à l'espace social et culturel du Diwa. Et ça aura lieu donc du vendredi 8 au lundi 11 novembre. Artisans du monde, déjà, on connaît un peu tous, mais c'est bien de le préciser de nouveau. Qu'est-ce que c'est comme organisation?
Alors, Artisans du monde, c'est une association de commerce équitable qui a déjà 40 ans d'âge. Qui existe dans beaucoup de villes en France. Il y a une fédération nationale, une centrale d'importation nationale. Et le principe, c'est donc d'acheter à un prix juste pour que les gens puissent vivre dignement de leur travail, là où ils habitent, principalement actuellement dans les pays du Sud.
Françoise, vous avez d'autres choses à rajouter, par exemple,
oui,
sur ce concept?
Oui, peut-être rajouter que Artisans du Monde, évidemment, fait un commerce différent, un commerce équitable, mais Artisans du Monde, c'est un acteur d'éducation et de plaidoyer aussi. Notre mouvement est fondé sur trois piliers majeurs, le commerce, le lien avec nos partenaires du Sud, l'éducation. Nous intervenons dans les classes pour justement parler de l'impact de la mondialisation et de l'alternative du commerce équitable, et puis ce que nous appelons donc le pilier plaidoyer, qui est de porter des campagnes d'interpellation, soit du grand public, soit de nos élus, soit de nos institutions, pour que le monde change dans le sens de plus de justice et d'équité.
C'est une association qui a été créée en 1974, ça fait un beau chemin déjà. Comment avez-vous vu évoluer ce mouvement?
Alors, disons que ça a commencé comme très souvent, hein, avec des petites tables sur le marché, avec trois grands Péruviens qui arrivaient d'une coopérative. Mais le démarrage, ça a été à l'initiative en fait d'un appel en 1971 de l'abbé Pierre, qui a dit lors des inondations du Bangladesh qu'il fallait faire des échanges entre les villes. Et puis petit à petit, alors le commerce équitable existait déjà dans les autres pays européens depuis plus de temps. Et puis petit à petit, ça a pris. Petit à petit, il y a eu des boutiques. Et puis une fédération en 1980, et puis une centrale d'importation. Et donc, voilà comment ça a évolué. Ça a évolué aussi sur les principes, le concept. Alors sur le commerce équitable, non. Que les gens puissent vivre dignement de leur travail là où ils habitent, dans les pays du Sud. Par contre, après, ça, on a plus fait d'éducation et de plaidoyer, peut-être qu'au début. Voilà.
Oui, moi je rajouterais que effectivement notre mouvement a su accompagner l'évolution de la société tant chez nous que dans le monde, et que nous avons eu des actions peut-être beaucoup plus de partenariat sur une meilleure connaissance peut-être de la réalité de nos partenaires qui traversent des guerres, qui traversent des crises économiques majeures. Donc je pense que le mouvement a fait preuve de beaucoup de souplesse pour coller à ces partenariats qui au départ se voulaient quand même très militant, mais peut-être un peu plus dans l'aide. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un partenariat réciproque de mutualisation, y compris de campagne politique. Et ce que je voulais peut-être rajouter aussi, c'est que les consommateurs en France ont fait preuve aussi de beaucoup plus d'exigences. C'est-à-dire, nous on veut acheter un produit, mais on veut aussi avoir la garantie que ce produit est de qualité, mais de qualité sociale. Donc nous avons dû aussi réfléchir à des systèmes de garantie. Au tout début, rien que la marque, entre guillemets, Artisans du Monde était suffisante. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait des certifications, des labels et tout ça. Donc on s'est adapté à la demande des consommateurs qui, effectivement, ont été bernés sur plein de plans. Et qui aujourd'hui veulent vraiment avoir la vérité. Donc Artisans du Monde reste l'acteur majeur de commerce équitable avec un système de garantie qui s'appelle WFTO, donc World Fair Trade Organization, qui montre que effectivement nos partenaires sont associés à une vraie démarche équitable.
Pour ça, vous avez constitué une charte internationale à ce propos ?
Ben exactement, nous obéissons à des principes qui est validé au sein de WFTO et si un des principes n'est pas respecté, le partenaire doit sortir de notre réseau de commerce équitable pour devenir un commerce solidaire. Donc nous faisons bien la part des choses entre commerce équitable avec un vrai système de garantie et le commerce solidaire qui répond déjà à des principes importants, mais qui est en démarche de progrès pour obtenir vraiment cette certification-là.
Oui, je voulais rajouter pour que les gens comprennent bien, et peut-être que tout le monde n'est pas, même si le consommateur a beaucoup évolué, vous savez, quelquefois, on a des associations qui achètent des choses sur les marchés ou qui fabriquent des petites choses pour les vendre à des fins de soutenir des projets ou voilà. Ça, c'est de l'aide tout à fait louable, avec des objectifs tout à fait louables. Le commerce équitable, il n'y a pas de renvoi d'argent. C'est-à-dire qu'on achète des produits avec la certification, on sait avec qui on travaille, on achète et ensuite, ici, on vend. C'est du vrai partenariat, du vrai commerce équitable et qui n'est pas... c'est ça qui différencie de l'aide ou qui différencie du commerce solidaire, on va dire.
C'est-à-dire que le producteur ou l'artisan perçoit au moins une marge en plus de son coût de travail.
Voilà. Alors, en fait, l'idée, c'est surtout qu'on puisse vivre dignement de son propre travail. C'est-à-dire que là où on habite dans le monde, c'était le principe d'ailleurs d'Emmaüs, de l'abbé Pierre au départ, c'est que les gens puissent vivre de leur propre travail. Donc, le prix équitable, le prix juste, c'est de dire, le coût de la vie dans un endroit est comme ça. Il n'y a pas de raison d'avoir d'esclavage, il n'y a pas de raison d'avoir de travail des enfants. Et on paye un prix qui correspond au travail donné. Et donc, oui, il y a une marge avec laquelle les producteurs soit réinvestissent pour arriver à améliorer leur production, soit investissent dans des projets sociaux quand ils sont en coopérative, puisque bien entendu, c'est toujours des groupements de producteurs.
Ces échanges, ce partenariat, est-ce que les États où sont installés par exemple les artisans aussi ont leur mot à dire sur ce type d'échange ou alors il y a une totale indépendance ?
Ah oui, une totale indépendance. On ne peut absolument pas dans les pays où vivent nos partenaires compter sur les États. Donc ce sont des liens les plus directs possibles entre notre centrale d'achat et le producteur. Donc le commerce équitable repose aussi sur le moins d'intermédiaires possible. Mais moi ce que j'ai envie de dire c'est que le commerce équitable ne représente pas aux yeux des États un tel enjeu qu'il est envie de s'en mêler, que l'État ait envie de s'en mêler. Donc c'est des relations mutualisation, de partenariat, de connaissances mutuelles. On accueille nos partenaires chez nous et tout ça, mais c'est une relation la plus directe qui soit, sans forcément de voilà, que ça se sache au niveau gouvernemental, par exemple.
Tout à l'heure, vous parliez aussi de vivre dignement de son activité. Je suppose que dans les pays du continent sud-américain, parce que c'est de celui-ci qu'on parle, principalement, je pense.
Ou d'Afrique.
D'Afrique aussi.
Ou d'Asie.
Beaucoup, oui.
D'accord,
beaucoup.
On va y revenir après, hein, puisque de toute façon, chaque pays a ses propres règles quelque part. Donc, je voulais savoir, par rapport à la vie digne, est-ce que c'est aussi une charte qui s'adapte en fonction du modèle économique ou du mode de vie ou du quotidien, du moins, d'un artisan dans son pays ?
Ah oui. Après, Hélène, tu pourras compléter. Moi, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, chaque organisation avec lesquelles on travaille, donc aujourd'hui, c'est à peu près 120 organisations du Sud, c'est des cas particuliers. Chaque groupement a son contexte dont on tient compte, évidemment, et on a essayé de mettre en place un dispositif de calcul du salaire vital pour que ce soit adapté à chaque réalité du partenaire, quoi, du producteur. Donc il est bien évident que les produits qui vont venir d'Afrique du Sud ou ceux qui viennent du Niger pour l'Afrique ou du Vietnam, les rémunérations, le prix des produits que nous allons vendre dans la boutique est très très singulier, c'est-à-dire que vraiment chaque organisation a bénéficié d'un calcul adapté. Voilà, c'est pas des règles communes, et lorsqu'on a la chance de rencontrer nos partenaires, on voit que chaque configuration est absolument unique. Donc c'est très difficile de poser des généralités, et ça c'est aussi tout le travail et l'expérience que l'on a depuis 40 ans, c'est de coller au plus près des réalités de nos partenaires.
Est-ce que vous comprenez, dans le fait de vivre dignement, le moyen aussi de pouvoir épargner pour pouvoir développer encore plus l'activité ?
Oui.
Bien sûr, oui, oui. Après, bon, je ne veux pas prendre trop la parole, mais Hélène, je vais te laisser la place. Mais oui, oui, bien évidemment, dans le prix juste, le plus équitable qui soit, et de cette dignité est première. Donc, outre l'envoi des enfants à l'école, l'accès à la santé et tout ça, il y a aussi le projet personnel du producteur. Et c'est en cela qu'on a parlé, donc, du salaire, au-delà même du vital, on a voulu essayer d'insérer un peu d'argent personnel. Et ça, ça a été aussi un gros plus du commerce équitable, c'est-à-dire qu'au-delà des coûts de production, d'un salaire minimum, on est vraiment aussi dans un salaire qui permet à tout homme de pouvoir aussi disposer de ses moyens comme il l'entend. Donc cette dignité, elle prend en compte bien évidemment le partenaire dans ses réalités matérielles, mais aussi pouvoir, ben, pourquoi pas, s'acheter un livre, des choses comme ça.
Alors je voudrais rajouter, en prenant quelques petits exemples. Par exemple, si vous prenez les femmes en République démocratique du Congo qui ont subi des viols de guerre, et qui sont victimes et doublement victimes puisqu'on les chasse de leur famille. Quand des femmes ensemble décident de faire une petite coopérative et de cultiver le café, par exemple, on n'est pas évidemment du tout dans les mêmes configurations que, par exemple, des grosses coopératives que nous avons depuis des années dans certains pays d'Afrique, où l'idée, c'est de faire l'apprentissage, de racheter des machines, d'apprendre à des jeunes à le métier du tissage, du cuir, ou par exemple des pratiques culturelles de tissage qu'il faut conserver. Évidemment, chaque pays et chaque coopérative est dans une situation extrêmement différente. Et la dignité, évidemment, elle est d'abord de pouvoir vivre. Et puis ensuite, la dignité, elle est de retrouver sa dignité, soit par exemple dans certains groupements de femmes. Et puis pour d'autres, c'est d'arriver à ce qu'il y ait transmission culturelle, transmission des pratiques ou apprentissage. Donc chaque coopérative a vraiment une histoire. Sur chacun de nos produits, nous avons la plupart du temps une petite explication qui permet que chaque produit va parler à la personne qui va venir acheter, a dit, j'espère, le week-end prochain. Chaque produit parle. Sur chaque paquet de café, il y a l'explication derrière la coopérative. Sur chaque sac, sur chaque coopérative, on a une explication. Et on a en plus des catalogues pour expliquer mieux si des gens sont encore plus intéressés par le pays.
Oui, on a l'habitude de dire que nos produits ont une histoire et que voilà, à nous qui accueillons le public de raconter cette histoire.
Tout à l'heure, nous parlions donc de l'étendue des artisans du monde sur le globe. Donc, on parlait d'Amérique du Sud, vous précisiez aussi l'Asie et l'Afrique. D'autres continents comme l'Océanie aussi ?
Non.
Non, principalement des artisans et des agriculteurs, hein, puisque nous avons beaucoup de produits alimentaires,
oui.
Des mangues séchées, des ananas, donc il y a des agriculteurs et des artisans, des agricultrices et des artisanes, parce que nous insistons beaucoup sur la place des femmes, surtout dans un certain nombre de pays où elles ont une place majeure par rapport à ce travail. Nous, on est sur l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, non pas en Océanie.
Peut-être rajouter que nos partenaires sont essentiellement des femmes. 80% des personnes avec qui nous travaillons dans le commerce équitable sont des femmes.
De tous ces continents, il existe des zones de conflit. Est-ce que Artisans du Monde, malheureusement, se retrouvent parfois au milieu ?
Alors là, il y a tout à fait l'actualité qui va dans ce sens. C'est que nous travaillons avec une association qui fait un travail extraordinaire au Liban, qui s'appelle Fairtrade Lebanon. Et là, actuellement, vous connaissez hein, toutes ces populations qui descendent dans la rue et qui veulent effectivement une autre gouvernance. Donc nos partenaires viennent de nous envoyer un petit mot pour dire leur grande inquiétude et que surtout ne les lâchons pas. Donc je pense que notre commerce équitable peut aussi permettre à des communautés, je pense à ces communautés syriennes hein, qui sont réfugiées au Liban, peuvent être aussi avoir un impact très fort sur leur survie quoi. Donc nous sommes de toute façon partie prenante de leur situation politique et économique, mais quand il y a des gros coups durs, je pense aussi à un autre partenaire, Lombok en Indonésie, qui a subi donc un tsunami il n'y a pas très très longtemps. Et là, notre centrale d'achat a mis l'accent sur les produits Lombok pour essayer d'apporter un petit plus à leur drame, quoi. Donc nos associations locales, hein, on en compte aujourd'hui à peu près 130, mettent l'accent sur des coopératives menacées soit par les changements climatiques, soit par des gros problèmes politiques.
Et au niveau de l'Europe, il n'y a aucune raison de voir les artisans du monde proposer des productions ?
Alors ça, c'est une très bonne réaction. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2014, l'appellation commerce équitable n'est plus réservée au commerce vers le sud, avec le sud, mais aussi vers le nord et avec le nord. Donc nous avons de plus en plus envie d'avoir dans nos magasins aussi des produits du nord, que ce soit des pays européens, mais tout simplement français et encore plus locaux dans nos magasins. Aujourd'hui, le terme commerce équitable inclut les produits du Nord. Et donc, depuis notre dernière assemblée générale, là, qui s'est déroulée en juin 2019, il a été voté l'entrée du commerce équitable Nord-Nord dans nos boutiques, sachant que, tout est à mettre en place. Nos équipes aujourd'hui sont peut-être un peu, comment dire, peut-être pas assez fortes pour mener tout de front, mais on a en tête à Valence d'avoir des produits de paysans, de chabeuil, voilà, par exemple. C'est un exemple.
Valence est d'ailleurs un point de vente pour les artisans du monde. On peut en parler un peu de Valence. Oui. Depuis quelle année existe-t-elle?
Alors, Valence était 1983, où un petit groupe de personnes dont nous faisions partie, d'ailleurs Françoise Michalon et moi, et nous avons décidé de monter un lieu de vente. Moi, c'était déjà le cas, je l'avais déjà fait à Grenoble auparavant. Et puis, nous avons monté une boutique, d'abord un petit peu loin dans Valence, puis après plus près. Et puis après, nous avons eu l'opportunité, il y a une vingtaine d'années, de pouvoir nous installer dans les rues piétonnes, dans le centre-ville. Et donc, nous avons un magasin ouvert tous les jours, hein, sauf dimanche et lundi, dans lequel nous vendons donc des produits alimentaires et des produits artisanaux. Et nous avons une petite salle à côté où il y a un petit bar où on peut déguster le thé, le café, et surtout on peut faire des expositions ou parler aussi d'un des piliers d'Artisans du Monde, qui est de faire des campagnes de lobbying, comme on appelle, des campagnes, que ce soit par exemple à l'époque de la Coupe du Monde sur le fait que les ballons étaient cousus par des enfants, ou sur d'autres campagnes qu'on a eues régulièrement, sur le droit à la terre, sur les femmes. Voilà. Et du coup, on essaye à chaque fois de pouvoir se réunir là, de pouvoir aussi proposer des expositions. Là, cette fois, à 10, nous allons proposer une exposition. Alors, deux choses. Nous allons proposer une exposition sur le droit des enfants, puisque c'est les 40... les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Voilà, oui. Avec un film qui va passer au cinéma Le Pestel le dimanche soir 10 novembre. Demain est à nous, sur des enfants qui luttent dans plusieurs pays du monde pour leurs propres droits, comme des jeunes, très jeunes femmes contre le mariage forcé, par exemple. Voilà, donc une expo sur le droit des enfants. Et puis, sur le café, nous essaierons de mettre l'accent sur le café du Congo de ces femmes qui, je vais faire un petit pont avec l'actualité, sur ces femmes, par exemple, du Congo, que nous retrouvons sur des bateaux en Méditerranée, voire qui meurent en Méditerranée, chacun le sait, ou qui arrivent ici demandeuses d'asile parce qu'elles ont subi des viols et qu'elles ne peuvent pas rester là où elles sont, ou parce qu'elles sont dans des zones de guerre comme au Kivu, où c'est terrifiant. Nous avons eu le prix Nobel de la paix cette année, donc de ce docteur qui réparait les femmes. C'est l'occasion aussi de promouvoir, par exemple, leur café. Donc, nous essayons à chaque fois de faire de l'information, de montrer aussi les campagnes de pression, parce qu'il faut aussi faire du lobbying, comme on dit, pour arriver à ce que les gens comprennent, en fait, comme... nous sommes sur une même planète, nous sommes que l'envers et l'endroit d'une même planète, et que voilà, et que comme à une époque l'agriculture bio et le commerce bio, c'est bien les consommateurs qui l'ont demandé, les consommateurs peuvent demander de l'équitable, et pour rajouter le lien avec le bio, quasi tous nos produits alimentaires sont bien entendu bio, puisque c'est le principe, le consommateur doit pouvoir avoir accès à un produit bioéquitable.
Vous parliez des artisans qui participent, qui sont partenaires d'Artisans du Monde, essentiellement 80% de femmes. Pourquoi si peu d'hommes ?
C'est quand même assez révélateur, effectivement. C'est qu'en fait, Artisans du Monde, dès sa création, a voulu rentrer en contact avec les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus les plus en difficulté, en tout cas. Et que quand on regarde à l'échelle de notre planète, ce sont les femmes qui correspondent le plus à des ouvrières mal payées, qui ont charge d'enfants, qui se charge de famille et des choses comme ça. Donc ce n'est pas tout à fait par hasard que les coopératives, les groupements avec lesquels on travaille soient essentiellement formés de femmes qui sont beaucoup dans l'économie informelle et qui, grâce au commerce équitable, ont pu accéder à des marchés et qu'elles correspondent effectivement à cette population la plus en difficulté, celle qui intéresse le moins, celle qui produisent peut-être moins, qui sont pas dans la compétitivité parce qu'elles sont elles se sont organisées elles-mêmes et qu'elles ont d'autres charges que le tissage, le tricotage qu'elles exportent, quoi. Donc c'est pas tout à fait un hasard, c'est que de toute façon la femme est au cœur de cette économie informelle que le commerce équitable a décidé de soutenir en premier.
Ce que vous proposez à la vente est très varié, hein. C'est de l'ordre de l'alimentaire et puis aussi d'objets, de fonctions ou décoratifs parfois.
Oui, alors sur les produits, donc nous avons une grande gamme de produits alimentaires avec du sucre, du chocolat, du thé, du café, des mangues séchées, des ananas. Et voilà, je pourrais pas tous les citer parce qu'on a un gros rayon alimentaire.
Beaucoup, oui.
Voilà. Et puis sur les produits artisanaux, donc nous avons à la fois des produits fonctionnels comme par exemple des vêtements. Des foulards, des sacs, des assiettes, des verres. Et puis, il y a aussi des objets de décoration, principalement pour la maison. Nous avons aussi des jouets pour les enfants, des instruments de musique. Voilà, donc nous avons une très grande variété de produits. Tout le monde peut y trouver son compte, je pense.
Ce sont des produits qui sont fabriqués à la manière de la localité de la personne, de l'artisan, ou alors est-ce qu'il y a aussi un relookage pour pouvoir être vendu en Europe
aussi. C'est que un des principes du commerce équitable, c'est le respect des savoir-faire et des traditions. Donc, on a envie aussi de ce côté ethnique du produit, mais d'autre part, nos partenaires veulent vendre et ils nous demandent aussi, d'après vous, quelle couleur, quelle matière, qu'est-ce qui est tendance chez vous. Donc, il y a quand même une petite adaptation pour un commerce qui peut fonctionner, quoi. Je pense par exemple à tous ces motifs vus et revus des lamas d'il y a 30 ans dans les pulls d'Amérique latine. Aujourd'hui, nos partenaires, des femmes en Bolivie en particulier, tricotent des gilets beaucoup plus sobres, beaucoup plus adaptés à une clientèle européenne ou même nord-américaine. Donc, moi j'ai envie de dire qu'il y a ce respect premier des savoir-faire, c'est-à-dire que les femmes qui tissent, les femmes qui tricotent, elles vont continuer à faire ce qu'elles savent faire, mais peut-être avec un ajustement pour plus de ventes, parce que ce que nous demandent nos partenaires, c'est vendre plus, vendre de plus en plus.
Je trouve vous parliez tout à l'heure de l'évolution d'Artisans du Monde. Je pense que les partenaires ont vraiment, grâce aussi au partenariat ici que nous avons avec eux, grâce aussi au fait que depuis 40 ans, c'est invité Internet et la pour faciliter la communication et la mondialisation aidant, oui, les partenaires se sont, tout en gardant leur savoir-faire, se sont vraiment adaptés à la demande. Et on trouve vraiment, par exemple, des très, très jolis sacs que on n'aurait pas pu trouver il y a 30 ans. Mais c'est sûr que même il y a 40 ans, quand on écrivait une lettre qu'il fallait 5 semaines pour qu'elle arrive, c'est sûr qu'on peut aussi envoyer des photos de ce qui se fait ici. Voilà, et tout le monde s'adapte. Et je pense qu'il y a eu une grande évolution sur la qualité des produits, sur la beauté des produits. Vraiment une magnifique évolution.
Le café aujourd'hui, le café d'Artisans du Monde est un des meilleurs sur le marché. Parce que justement, il y a eu un travail conjoint avec les partenaires pour que le café, le thé conviennent au goût aussi européen et français.
Par rapport à Artisans du Monde, il y a certainement une équipe qui traverse ou qui voyage à travers le monde à la rencontre de ces artisans. Est-ce que c'est pour vous aussi l'occasion d'améliorer la filière qui constitue la fabrication de l'objet, c'est-à-dire du textile ou du végétal, jusqu'à son conditionnement?
Alors, je vais parler déjà de l'équipe de bénévoles. Voilà, et puis ensuite, je répondrai à votre question. Donc ici, ce qui est très important aussi, c'est que grâce au bénévolat d'Artisans du Monde, à ces campagnes d'information, au fait de recevoir des partenaires régulièrement, c'est sûr qu'on voit, on a pu le voir, hein, Françoise et moi, on est depuis le début, on a pu voir aussi cette éducation que ça fait à notre niveau, à nous, de comprendre tout d'un coup comment vivent les gens dans d'autres pays, de comprendre les difficultés, de comprendre aussi leur joie, leur peine, leur vie. Moi, je trouve ce qui m'a le plus enrichi, c'est ce contact avec les partenaires, qu'on les ait directement ou qu'on les ait par vidéo, mais quand on les reçoit. Et je pense que tous les bénévoles se sont extrêmement formés, puisque c'est une action très concrète de commerciale. Donc, on se forme et on se forme aussi avec tous les informations qu'on reçoit. Voilà, par rapport à aller voir les partenaires. Alors, bien évidemment, en ces aires de réchauffement climatique, l'idée n'est pas du tout de sans arrêt aller voyager en avion pour aller les voir. Donc, nous avons beaucoup de relais. Déjà sur place de d'autres ONG, d'autres associations. En général, d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on est mis en contact, hein, comme par exemple le CCFD, qui nous aide d'ailleurs beaucoup sur l'expo vente à Die. On peut, bien entendu, il y a des salariés à la centrale d'importation à Paris qui travaillent. Nous avons un regroupement européen qui fait que, par exemple, s'il y a un salarié allemand ou italien qui est dans un endroit ou qui peut aller faire le contact avec une coopérative, évidemment, on ne va pas tous aller s'y promener pour... voilà, donc ce n'est pas tout le temps. Maintenant, avec les moyens, comme je vous dis, c'est vrai qu'avec Skype, avec les mails, on connaît aussi les choses un peu plus précisément. Mais bien entendu, il y a une équipe de salariés à la centrale d'importation et à la Fédération Artisans du Monde qui travaillent bien entendu à ces contacts réguliers pour arriver à savoir ce qui se passe. Mais c'est toujours bien sûr en coopération avec les partenaires.
C'est qu'il n'est surtout pas question d'envoyer des volontaires. Hein. Nous ne sommes pas du tout dans des réalisateurs de projets. On est seulement dans le commerce et ça, on s'y tient. C'est déjà un énorme travail. Mais je voulais donner un petit exemple là, qui me semble intéressant. C'est que nous avons travaillé pendant 8 ans avec une organisation qui fait du très bon travail dans le Sahel, qui s'appelle Afrique Verte. Et pendant 8 ans, nous avons essayé de réhabiliter une petite graine qui était de plus en plus délaissée au Burkina, pour donner l'exemple du pays dans lequel nous travaillons, et qui était délaissée au profit du blé importé avec le pain et tout ça. Et donc, le fognon, en fait, n'a pas forcément beaucoup d'intérêt dans nos pays à nous. On a du millet, on a des équivalents. Et le travail de partenariat que nous avons pu faire avec une démarche d'importation tout à fait expérimentale pour améliorer la qualité du produit, pour avoir des normes d'hygiène et tout ça, a permis aujourd'hui, nous, en tant qu'artisans du monde, on ne vend pas de fognon, mais ce n'était pas du tout l'objectif majeur, mais c'était de redonner envie aux habitants de ce pays de se réapproprier cette céréale ancestrale qui ne demande pas d'eau, qui est vraiment très facile à cultiver sur des terres pauvres. Et aujourd'hui, donc, les nouvelles sont très intéressantes puisqu'on trouve de plus en plus du fognon sur le marché avec une qualité qu'il n'avait jamais atteint. Donc, par une démarche de commerce équitable expérimentale, nous avons permis le développement de cette culture délaissée et qui correspond tellement à leur terre, à leur climat, voilà. Donc ça, c'est des exemples qui me semblent assez parlants pour donner une dimension autre que le produit vraiment du commerce équitable.
Oui, je voulais rajouter par rapport à ça, parce que il y a beaucoup de clients qui nous le demandent. En fait, ils ne sont pas... un des critères, c'est de ne pas être dépendant de nous. Par exemple, cet exemple est très intéressant parce qu'il y a bien entendu toujours de l'aide ou un partenariat pour essayer que sur le pays où ils produisent, en fait, il y a une part de vente sur le marché local et on espère que le commerce équitable sud-sud ou dans les pays, comme chez nous, hein, on est bien là à dire qu'il faut faire du bio local. Donc voilà, du bio local et équitable et dans les autres pays aussi. Donc ils ne sont pas, pour répondre à cette question qu'on nous pose souvent, ils ne sont pas dépendants de nous. Comme par exemple, ça peut être le cas sur certains pays avec des énormes productions de café, où tout d'un coup, un vendeur de café ici dit « ben non, il ne m'intéresse plus, je préfère le café de l'autre ». Voilà, donc ça c'est très important que ça soit dans la durée et qu'il ne soit pas dépendant. Voilà, donc tout ça est dans les critères et dans la charte de travail du commerce équitable.
Voilà, et là, il y a forcément des exceptions, hein, puisqu'on vous parlait d'organisation au fonctionnement absolument unique. Il y a par exemple des partenaires qui n'ont comme débouché de commerce équitable que 10% de leur production à l'export. Et par contre, ils essaient d'instaurer des règles, par exemple, de prix d'achat de leurs produits chez eux. Donc, effectivement, il est hors de question de les rendre dépendants. Il y a, comme je disais, des exceptions. Je pense par exemple à des ateliers d'intouchables dans le sud de l'Inde. Et c'est vrai, quand on connaît ce pays-là, il n'est pas tellement pensable pour ces ateliers-là de trouver des débouchés locaux. Donc, il faut bien se garder de grandes généralités, mais essayer de voir au cas par cas. Parce que les lépreux, par exemple, qui travaillent dans ces ateliers-là, n'ont pas beaucoup de clients locaux et que l'export leur permet effectivement de s'organiser et de vivre même malade, quoi.
Vous parliez de lobby en quelque sorte tout à l'heure. Est-ce que vous avez, un écho auprès des instances internationales sur ce modèle de commerce équitable ?
Oui, moi je pense que de plus en plus, aujourd'hui par exemple, on sait que 80% de la population européenne, ou en tout cas du Nord, connaît, qu'est-ce qu'on met derrière le mot connaître, a entendu parler du commerce équitable. Donc de plus en plus, notre voix, qui était quand même très pionnière il y a 40 ans, est de plus en plus portée. Et là, j'ai pour exemple, et je voulais en parler tout à l'heure aussi, par rapport à notre plaidoyer, on fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif de l'éthique sur l'étiquette, peut-être en avez-vous entendu parler, parce que grâce à ce collectif qui est formé d'une quarantaine d'ONG, on peut faire pression aujourd'hui sur les multinationales. Et la campagne aujourd'hui que nous menons, là, et on va en parler à Di, s'intitule « Stop impunité des multinationales », qui aujourd'hui bénéficient de droits incroyables, passent au-delà du droit même étatique. Stop impunité laisse entendre que les multinationales aujourd'hui font ce qu'ils veulent là où ils veulent. Et que on s'est rendu compte que beaucoup de multinationales faisaient un affichage de respect des droits, de greenwashing, comme on dit. Et en fait, pas du tout. Samsung vient d'être épinglé en France par justement l'association Sherpa et par l'association collective de l'éthique sur l'étiquette aussi, parce que c'était parfaitement mensonger. Donc, et ça, ce sont des campagnes européennes. Donc, c'est pour dire que, peut-être que le Parlement européen ne se préoccupe pas trop de ça et encore, mais que on a une force aujourd'hui parce que il y a des rassemblements d'ONG, il y a des rassemblements de mouvements sociaux, de mouvements même politiques qui veulent aussi faire changer ces pratiques absolument scandaleuses des multinationales aujourd'hui qui ont plus de droits même que l'État lui-même, quoi.
Et ça, c'est dans l'ADN d'Artisans du Monde, parce que quand la charte a été écrite en 1981, c'est quand même un modèle dans le genre. Cette charte était déjà très 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 politique au sens de dire que les multinationales faisaient la pluie et le beau temps quand même sur les conditions de travail. Et donc c'est sûr que il y a aussi en 40 ans une organisation européenne, une par exemple la plateforme du commerce équitable, hein, où un certain nombre d'acteurs se retrouvent. Il y a des plateformes européennes et des plateformes internationales. Donc petit à petit, oui. Ça rentre dans les mœurs. Nous avons eu droit aussi à cette loi de 2014 sur le commerce équitable. Donc, petit à petit, les choses avancent. On pourrait prendre l'analogie avec le bio, hein. Petit à petit, tout ça avance. Sachant qu'on voit bien qu'au bout du compte, que ça soit pour le bio comme pour le commerce équitable, il s'agit bien d'être consommateur, comme on le dit. C'est-à-dire, c'est nous qui avons la force. C'est grâce à nos achats que les choses changent et que oui, il faut dénoncer les pratiques non éthiques d'un certain nombre de multinationales malgré ce qu'ils peuvent écrire sur les étiquettes.
Il faut être extrêmement vigilant et
ça va être fini, voilà,
s'interroger en tant que consommateur sur tous nos actes d'achat.
Pour ces trois journées à venir, du 8 au 11 novembre, pardon, il y aura donc en outre ces ventes, des activités. Vous parliez tout à l'heure de table ronde, une conférence. Comment ça se passerait? Il y a des animations autour de ça?
Donc l'animation majeure, ça va être le débat suite au film au cinéma Le Pestel le dimanche soir sur les droits des enfants. Sinon, il y aura une exposition sur le droit des enfants et puis aussi quelques informations donc sur le café du Congo, mais il n'y a pas malheureusement, alors il y aura une vidéo probablement aussi sur nos t-shirts, le prix de nos t-shirts ici en France. Par contre, nous n'avons pas la place dans la salle de l'espace social du Diwa. Nous accueillons aussi d'autres associations avec nous. Donc, du coup, nous n'avons pas la place de faire vraiment un lieu de table ronde. L'autre chose aussi, et je fais un appel, que nous avons besoin de bénévoles pour décharger et installer, pour ranger lundi, pour tenir. Puis des bénévoles qui se formeraient aussi au commerce équitable, puisqu'on a toujours des très bonne formation interne d'éducation populaire, hein, donc ça c'est vraiment très important. Donc non, nous n'aurons pas d'autres moments de conférences ou de table ronde. Par contre, il y a de l'information partout et en permanence auprès des gens qui tiennent.
Voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est tout l'intérêt des petites boutiques, hein. Nous sommes absolument pas en grande surface nulle part. Des petites boutiques, c'est de pouvoir parler avec les gens. Et là, on va être disponible là, pendant 3 jours pour accompagner les personnes qui vont venir nous voir dans leurs achats. On va pouvoir leur expliquer. Et c'est ça que, personnellement, j'aime beaucoup Adi. C'est qu'on est là pour ça. On est vraiment à l'écoute de leurs questions et essayer de leur faire sentir ce qu'est le vrai, entre guillemets, commerce équitable exigeant que porte Artisans du Monde.
Donc pour finir, rappeler le lieu et les horaires. Donc l'expo vente de commerce équitable d'Artisans du Monde a lieu à l'espace social et culturel du Diwa, place de l'Évêché à Di. Tout le monde sait où c'est. Donc cela commence par une inauguration vendredi 8 novembre à 18h où tout le monde est invité et Radio Diwa sera bienvenu. Et puis samedi, toute la journée de 9h à 19h. Dimanche, toute la journée de 10h à 19h. Et lundi, de 10h à 17h pour nous permettre de ranger et de terminer lundi à 17h. Donc tout samedi, tout dimanche, tout lundi. Et l'inauguration, vendredi soir à 18h.
Françoise, quelque chose à rajouter ?
Nous allons avoir la chance de rencontrer lundi après-midi une association qui vient d'arriver dans le Diwa, qui s'intéresse aux femmes rurales du nord-est du Brésil et qui propose aussi un film après notre départ dans ce même lieu sur justement les conditions des femmes paysannes du Brésil. Donc voilà, ça va être une 3 jours très, très riches, très intenses et on espère que Radio Diwa sera avec nous.
Voilà, et pour rajouter sur les partenariats, nous accueillons comme chaque année l'ASPAL, une autre association de commerce équitable, le CCFD, dont certaines personnes ici nous aident vraiment beaucoup bénévolement, Yéré et son chocolat, Culduci, etc., etc., un certain nombre d'associations que nous recevons, qui ont leur stand aussi, puisqu'ils sont associations locales ici, en essayant aussi ici de faire du commerce équitable.
Françoise Michalon, je vous remercie, comme pour Hélène Legardeur, d'être venue nous parler donc de cette vente de commerce équitable qui aura lieu donc du 8 au 11 novembre à l'espace social et culturel du Diwa. Et donc je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Je suis aussi non partagée.